Deuxième conférence du 22 mai 1998.
Alors, j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure hein, cette distinction et puis en même temps ce point de contact entre l'art, hein, la techné et puis la sagesse. Donc vous voyez, essayez de bien saisir ce qui me semble important. Hein. Pour Aristote, il y a une puissance intellectuelle, notre intelligence, le nous, qui peut se développer selon différentes orientations. Il y a une connaissance pratique. Et cette connaissance pratique, elle est elle-même double. Hein, il y a la connaissance pratique dans l'ordre de la réalisation d'une œuvre. C'est ce qu'on appelle l'art. Vous voyez ce qu'Aristote appelle la réalisation, c'est-à-dire la poiesis, hein, le poiein en grec, le faire, réaliser quelque chose. Et puis, la connaissance pratique dans l'ordre de notre activité morale, volontaire, ça va être le rôle de la prudence. C'est ce qu'Aristote appelle la praxis. Alors vous voyez, ici, je souligne ces deux termes parce que dans le langage contemporain, on a mélangé tout ça. Surtout Marx. Oui. Marx dit que la praxis, c'est la confrontation entre l'homme et l'univers. Alors que pour Aristote, la praxis, c'est l'activité morale. Donc, vous voyez, il y a une distinction capitale à faire pour saisir ce que c'est que la prudence. C'est comment je distingue le travail, la réalisation d'une œuvre, ce qui est de l'ordre du faire, et puis ce qui est de l'ordre de l'agir moral. Oui. Aimer quelqu'un, ce n'est pas réaliser une œuvre. Il y a dans notre activité pratique autre chose que le travail. Hein, vous voyez, c'est là qu'on a un point de contact avec ce que vous avez commencé à voir avec le père Philippe, la place de l'amitié. Voyez, aimer quelqu'un, aimer une personne humaine, ce n'est pas de l'ordre du travail, ce n'est pas de l'ordre du faire. Donc on distingue la réalisation de l'œuvre et puis la responsabilité morale. Alors, la prudence, c'est une qualité de l'intelligence qui va venir éclairer. Oui, et là je vais vous lire un passage qui est très frappant chez Aristote, il parle encore de la vision, hein, qui va venir éclairer notre vie pratique, notre vie morale. Pour aimer, il faut être intelligent. Parce qu'il s'agit de voir, de découvrir, de saisir la finalité, le pourquoi de nos choix. Oui, autrement dit, la prudence a un rôle extrêmement important pour Aristote, pour nous permettre de poser des choix dans l'ordre de la vie morale, qui soit de vrais choix humains. Aristote, à cette phrase, il dit « Le principe de l'action morale, hein, ce qui est à la source de l'action morale, c'est un amour lié à la connaissance. Et quand je pose un choix moral, il est toujours posé en vue d'une certaine fin, en vue d'un bien qui est pour moi une fin. Et je pose... Pour Aristote, je n'entre pas ici dans toute la question du choix amical que Aristote ne développe pas. Je parle ici du choix d'un moyen. Je choisis un moyen en vue d'atteindre un bien qui, pour moi, est une fin. Et c'est pour ça qu'Aristote souligne que pour l'homme prudent, une de ses très grandes qualités, c'est de savoir bien délibérer, donc réfléchir, délibérer, pour savoir, d'une part, quelle est vraiment sa fin? D'autre part, quels sont les moyens les plus appropriés pour atteindre cette fin? Et l'homme prudent, vous voyez, je dis ça parce que si vous entendez le mot prudence au sens courant en français d'aujourd'hui, vous voyez, l'homme prudent, c'est celui qui ne brûle pas un feu rouge. Hein, vous voyez, on reste dans des choses extrêmement terre à terre. Alors que la prudence, pour Aristote, c'est une qualité éminente de l'intelligence. Et là, il y a une des grandes discussions avec Platon. Hein. Pour Platon, la vertu dominante, c'est la justice. Pour Aristote, c'est la prudence. La justice ne peut s'exercer que sous la motion, grâce à l'éclairage de la prudence. Parce que si j'acquiers la justice, c'est toujours en vue d'une fin. Et qu'est-ce qui me donne l'intelligence de cette orientation vers la fin? C'est, du moins, qu'est-ce qui fortifie mon intelligence dans cette vision de la finalité? C'est la prudence. J'ai besoin d'acquérir la prudence parce que dans l'ordre de ma vie morale, cette activité morale qui relève de la volonté et de l'intelligence implique aussi la place de l'imagination et la place des passions. Vous voyez ? On peut être aveuglé, on en retrouve la vision, on peut être aveuglé par l'imaginaire. On peut être aveuglé par une passion. De telle sorte que on ne voit plus avec suffisamment de lucidité ce pourquoi nous vivons, le sens de notre vie. Et la prudence est donc une qualité acquise qui vient fortifier mon intelligence pratique dans l'ordre moral pour me permettre de toujours bien voir ce pourquoi je vis, l'orientation profonde de ma vie par conséquent. Et donc qui m'aide aussi à voir les moyens que je dois prendre, que je dois choisir pour atteindre cette fin. Il y a un choix. Et un choix, c'est quelque chose dans lequel je m'engage. L'engagement moral, c'est au niveau du choix. Mais tout choix est lié à une intention qui porte sur une fin. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez, on va voir un point de contact avec la sagesse. Quand je vais découvrir ce que c'est que la contemplation, et que je découvre, dans ce regard de sagesse, que la finalité ultime de l'homme est en Dieu, qu'elle consiste à contempler, à connaître Dieu, ça va modifier ma prudence. Mais la prudence humaine n'est pas seulement une prudence qui s'exerce dans le domaine des affaires humaines. Aristote va, et c'est une des grandes questions d'Aristote qu'il résout très peu, mais il pose le problème. Il dit, est-ce que la sagesse modifie la prudence? C'est évident. Mais quand je découvre que ma finalité ultime pour ma vie, c'est la contemplation, ça modifie mon regard prudentiel. C'est-à-dire, je n'oriente plus ma vie de la même façon que si je n'avais pas découvert l'existence de Dieu et que si je n'avais pas découvert l'importance de la contemplation. Mais si je comprends que la contemplation est capitale pour ma vie humaine et que donc la recherche de la vérité est capitale, ben je dois choisir des moyens différents que si je considère que ma fin, par exemple, c'est uniquement gagner de l'argent. Et forcément, vous voyez, la prudence va dépendre de la fin. Donc plus la fin que je découvre est élevée, plus la prudence va s'intérioriser, se modifier. Ça, on y reviendra au terme, après avoir vu le rôle de la contemplation, ce qu'Aristote fait, donne quelques lumières là-dessus. Oui, c'est capital aussi du côté éducatif. Oui. Quand on éduque un enfant, ben, ça dépend énormément de la fin qu'on a découverte pour l'homme. Si je veux dire que sa fin, c'est uniquement qu'il soit en bonne santé, bon, ben, je vais choisir uniquement les moyens pour qu'il soit en bonne santé. C'est ça la fin que je poursuis. Si je veux dire que sa fin, c'est d'abord l'aspect de découvrir une véritable amitié, je vais l'éduquer dans ce sens-là, ainsi de suite, voyez. Oui. Toute prudence est liée à une finalité. Alors, je vous lis un petit passage qui me semble très, très intéressant, où on retrouve cet aspect du regard. Et c'est pour ça que toujours cette analogie qu'on trouve chez Aristote. Alors, je vous le lis, puis sans trop commenter, parce que ça c'est assez facile, parce que je voudrais arriver à d'autres textes qui me semblent importants sur ce que c'est que la prudence. Donc, le cas de la vertu est en effet voisin de celui de la prudence dans ses rapports avec l'habileté. Alors vous voyez, distinction très intéressante entre la prudence, c'est une vertu. Donc, elle est quelque chose qui s'acquiert. C'est quelque chose qui s'acquiert, c'est une qualité acquise, qui se distingue de l'habileté. Ah oui, quelquefois, ça peut tromper de l'extérieur. Il y a des gens qui sont très habiles, mais qui ne sont pas qui n'ont pas vraiment la vertu. Et vu de l'extérieur, c'est quelquefois semblable. Il y a des gens qui donnent pour vertu ce qui n'est qu'habileté. Vous voyez, comment comprendre ça? Donc le cas de la vertu est en effet voisin de celui de la prudence dans ses rapports avec l'habileté. Sans qu'il y ait à cet égard identité, il y a du moins ressemblance. Et la vertu naturelle entretient un rapport de même sorte avec la vertu au sens strict. Tout le monde admet, en effet, que chaque type de caractère appartient à son possesseur en quelque sorte par nature. Car nous sommes justes, ou enclins à la tempérance, ou braves, et ainsi de suite, dès le moment de notre naissance. Vous voyez, il y a une affaire de tempérament. Il y a des gens qui ont un tempérament très irascible. Alors, est-ce que c'est le courage? Oui, c'est très intéressant. Est-ce que la vertu, c'est uniquement une qualité naturelle? Non. Il y a des gens qui ont un tempérament irascible, et d'autres qui ont un tempérament, spontanément, ils sont plutôt enclins à la justice. Il y en a d'autres, ils sont plutôt enclins à la tempérance, ils ont une mesure dans ce domaine. Est-ce que c'est pour autant vertu? Oui. C'est pour ça qu'Aristote dira que la vertu morale est unique pour chacun. Il n'y a pas de vertu en soi. Il n'y a pas la tempérance en soi. Il n'y a pas le courage en soi. Le courage est différent pour chacun parce que le tempérament de chacun n'est pas le même. Et ce qui pour l'un peut apparaître vertu, peut être vertu, pour l'autre ne le sera peut-être pas. Et il y en a, vous savez, qui ont un tel tempérament, un tellement irascible, ils font des efforts énormes pour se mettre en colère que 10 fois par jour. Ils ont quelquefois une vertu de patience éprouvée. Parce que s'ils n'avaient pas la vertu, ce serait 50 fois par jour. Il y en a d'autres qui ne se mettent jamais en colère. On peut faire tout ce qu'on veut, ils se mettent en colère une fois tous les 10 ans. Ne dites pas qu'ils sont courageux, qu'ils ont la vertu de courage. Non, ils sont mous, c'est pas pareil. Mais la différence entre le tempérament et la vertu. Je prends exprès des exemples caricaturaux. Hein. La différence entre tempérament et vertu. La vertu, dit Aristote, n'est pas en nous par nature. Elle n'est pas non plus contraire à la nature. Elle s'acquiert selon la nature. Oui, c'est très beau. La vertu n'est pas en nous par nature. On ne naît pas courageux. On ne naît pas tempérant. On ne naît pas prudent. Mais la vertu n'est pas contre nature. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de l'intérieur orienter une capacité naturelle en l'orientant vers notre fin humaine, spirituelle. Et donc, l'homme vertueux, ce qui exige la prudence, c'est celui qui ordonne ses capacités, d'abord qui les connaît. Je sais que j'ai un tempérament très colérique, je sais que j'ai un tempérament plutôt au contraire très du genre du concupiscible. Ça se connaît, on se connaît soi-même. Oui. Je connais mon tempérament et je sais, j'apprends à l'orienter, à l'ordonner dans la conquête de ma fin. Et cela relève de la prudence. Oui. C'est pour ça que pour Aristote, la prudence est au cœur de toutes les vertus. On n'est pas vertueux par tempérament. La vertu exige toujours la prudence, parce que ça exige que l'on ait vu, oui, qu'on ait vu, quelle est notre fin. Et donc, je note ça en passant, parce que c'est pour bien comprendre ce que c'est que la vertu de prudence. Hein, vous voyez, c'est de l'ordre pratique. C'est de l'ordre, dit Aristote, c'est en matière contingente. La prudence, c'est dans l'ordre de ce que je peux poser comme acte. Je pourrais poser ce choix ou ne pas le poser. Vous savez que la contemplation n'est pas de l'ordre du contingent. Elle contemple un être qui existe en lui-même. Et on y reviendra. La sagesse présuppose une connaissance théorétique. C'est une connaissance contemplative qui contemple une réalité qui me dépasse, qui existe au-delà de tout changement. La prudence, c'est dans l'ordre de ce que je peux, ce dont je peux être source dans ma vie morale, oui, les choix que je peux poser. Alors, pourtant, nous cherchons quelque chose d'autre, à savoir le bien au sens strict. Et nous voulons que de telles qualités nous appartiennent d'une autre façon. En effet, même les enfants et les animaux possèdent des dispositions naturelles. Mais faute d'être accompagnés d'intelligence, ces dispositions ne nous apparaissent pas comme vertus. Elles nous apparaissent comme nocives. J'aime pas le terme nocif, parce que c'est mauvais, ça, vous voyez. Le terme nocif, c'est mauvais. De toute façon, il y a une chose qui tombe, semble-t-il, sous le sens. C'est que tout comme il arrive à un organisme vigoureux, mais privé de vue, de tomber lourdement quand il se meut parce qu'il n'y voit pas, ainsi en est-il dans le cas des dispositions dont nous parlons. Une fois au contraire que l'intelligence est venue, alors dans le domaine de l'action morale, c'est un changement radical. Et c'est très 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 beau ça. Quand on n'a pas la prudence, c'est comme marcher sans avoir la vision. On pose des actes sans savoir pourquoi on les pose. Et donc là, je souligne ce point pour que vous voyez bien. Hein, la prudence est une certaine sagesse pratique. Parce qu'elle est, dans l'ordre de notre activité morale volontaire, ce qui nous permet de nous gouverner dans une intelligence de ce que nous faisons. Pour ça, ne disons pas qu'Aristote est intellectualiste en morale. Disons plutôt, il reconnaît la place essentielle de l'intelligence au service de l'amour. Pour aimer vraiment le bien qui est notre fin, il faut toujours l'intelligence. Parce que c'est un amour spirituel, humain, et non pas une simple passion. La passion est d'ordre sensible, elle est commune à l'homme et à l'animal. L'amour spirituel est propre à l'homme et réclame l'intelligence. C'est très intéressant de creuser ça. Oui. C'est pour ça, vous voyez, hein, je ne peux pas mettre mon intelligence uniquement au service d'une passion. J'ai la passion des voitures, j'ai la passion des bons repas, j'ai la passion du carpe diem, j'ai la passion du plaisir, et toute ma vie est orientée vers ça. Ce n'est pas vraiment la prudence. La prudence, c'est une vertu orientée vers une fin humaine, donc un bien spirituel, et qui exige une conquête, autrement dit. Alors, vous voyez, une fois au contraire que l'intelligence est venue, Alors, dans le domaine de l'action morale, c'est un changement radical. Et la disposition qui n'avait jusqu'ici qu'une ressemblance avec la vertu sera alors vertu au sens strict. Oui, c'est très beau. Hein, donc, la prudence, la vertu, n'est pas une habileté, n'est pas une affaire de tempérament. C'est quelque chose qui relève de l'intelligence qui oriente notre vie. Donc, vous voyez, je note ça pour que vous voyez bien qu'est-ce que la prudence pour Aristote. C'est une qualité de l'intelligence pratique dans l'orientation de notre vie morale, donc dans notre responsabilité, dans la conquête de notre fin, de ce pourquoi nous vivons. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur les points, les rapports entre prudence et sagesse, hein, parce que bien sûr, il y a un rapport. Alors, justement, quels sont les rapports ici entre prudence et sagesse? Comment est-ce qu'on peut dire, oui, alors c'est une question que se pose Aristote, est-ce que la prudence domine la sagesse ou est-ce que la sagesse domine la prudence? Quels sont les rapports entre les deux? Alors, oui, je vous ai dit tout à l'heure, et je crois important de le noter, pour Platon, il n'y a pas de distinction entre prudence et sagesse. Pourquoi? Bien, je crois que c'est facile à comprendre. Parce que si je considère que l'homme est naturellement contemplatif, il n'y a qu'une seule fin pour Platon, c'est la contemplation. Donc, pour Platon, être prudent, c'est retrouver la contemplation. Donc, il n'y a qu'un aspect spéculatif, en fait. Tandis que pour Aristote, il y a des fins multiples. Et la contemplation, c'est une fin ultime de l'homme. Donc, il y a un certain rôle de la prudence sur l'acquisition de la sagesse. Mais si, par exemple, je ne prends jamais de temps pour chercher la vérité, je n'acquerrai jamais la sagesse. Or, prendre du temps pour chercher la vérité, ça relève de la prudence. Mais comment j'ordonne ma vie? C'est un jugement prudentiel. Ça veut dire, quelles sont les priorités dans ma vie? Est-ce que la priorité, c'est uniquement le travail? Est-ce que c'est uniquement l'argent? Est-ce que c'est uniquement le plaisir? Est-ce que c'est, vous voyez, la fin de ma vie? Dès que je parle de finalité, je parle d'ordre. Parce que la fin est quelque chose d'ultime, elle est donc première dans l'ordre d'intention. Et la finalité, c'est ce que je poursuis à travers tout. Donc si je considère que la fin de ma vie, la fin ultime de ma vie, c'est la contemplation, la prudence a un rôle essentiel pour acquérir la sagesse et découvrir la contemplation philosophique. Parce qu'il faut que j'ordonne ma vie. Il y a des priorités, on ne peut pas tout faire, on a un capital de vie limité. Il y a des touche-à-tout, mais la sagesse n'est pas d'être touche-à-tout. La sagesse n'est pas du bricolage. Non, c'est quelque chose qui exige une orientation fondamentale de la vie. D'autre part, la sagesse a une répercussion sur la prudence, parce que si j'ai découvert l'existence de Dieu, et que je saisis l'importance de la contemplation et de l'adoration, cela éclaire d'une nouvelle manière ce qu'est ma fin et j'acquiers une prudence religieuse. Une prudence d'homme qui cherche à contempler. Donc, il y a une répercussion l'une sur l'autre. Alors, vous voyez, Aristote souligne par conséquent, il a cette phrase très, très belle. Il dit que la prudence n'est jamais ultime pour l'homme par conséquent. Je vous lis ce passage qui se trouve dans l'Éthique à Nicomaque, toujours au livre 6, chapitre 7. C'est le chapitre qui est sur la sagesse. Donc, on commence à aborder qu'est-ce que c'est que la sagesse pour Aristote comme vertu de l'intelligence. Je reviendrai tout à l'heure sur le lien entre science et sagesse, parce que Aristote va le montrer lui-même. Donc, retenez, il y a deux développements pratiques de notre intelligence, l'art dans l'ordre du faire, la prudence dans l'ordre de l'agir. Sans, je les distingue, je ne les sépare pas. Vous voyez qu'il y a toujours des points de contact. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la sagesse pour Aristote dans une perspective philosophique? Donc, la sagesse, c'est une qualité de l'intelligence. Une qualité acquise qui nous rend capable, qui est ordonnée à la contemplation. L'acte de la sagesse, c'est de contempler. Oui, saint Thomas reprendra ça quand il dira dans la Somme théologique, on le verra demain, la sagesse, c'est habitus contemplativus. Une qualité acquise, capable de contemplation. Alors, vous allez dire, mais quoi? Comment j'acquiers ça alors? Où est-ce que je le trouve? Où est-ce que je trouve la sagesse? C'est en contemplant. J'acquiers la sagesse en contemplant. Et je l'acquiers pour mieux contempler. Vous allez dire, mais quoi? C'est le serpent qui mord sa queue alors. Oui, pour Aristote, la vertu naît dans l'acte lui-même et permet à l'acte d'être plus parfait. Vous voyez, c'est comme une espèce d'approfondissement de l'intérieur. Pour ça, je dis que ce n'est pas une méthode qui vient toujours de l'extérieur. C'est en cherchant à contempler que j'acquiers la sagesse. Et plus je l'acquiers, plus je deviens capable de contempler. Oui, ça exige forcément qu'on réfléchisse, ce qu'on fera tout à l'heure, sur ce que c'est que la finalité de l'intelligence et sur ce que c'est que l'objet de la contemplation. Qui je contemple? Qu'est-ce que je contemple? Et je ne trouve pas la sagesse dans une pochette surprise. Tiens, j'ai trouvé la sagesse. Ah, ben c'est pas mal, tiens, je l'emmagasine dans ma mémoire. Hein, et puis voilà, je suis maintenant capable de contempler. Non. Il s'agit de savoir, de découvrir de l'intérieur l'acte de la contemplation. Et pour ça, il faut voir qui je contemple. Et quelle est la finalité de l'intelligence. Et alors, j'acquiers de l'intérieur cette qualité qu'est la sagesse, qui me rend, vous voyez, qui va me stabiliser, hein, me rendre plus capable, m'enfoncer, me déterminer davantage dans cette orientation vers la contemplation. Alors, premier aspect, le terme sagesse, donc c'est chapitre 7 du livre 6, hein, des Dikenkak, le terme sagesse dans les arts est appliqué par nous à ceux qui atteignent la plus exacte maîtrise dans l'art en question. Ah oui, c'est très intéressant. Premier sens de la sagesse, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, et on s'approche progressivement. La sagesse dans un art, c'est une perfection, une maîtrise. Et, alors oui, on touche un point extrêmement intéressant. Le maître, c'est lié à la sagesse. Et, on est vraiment maître, au fond, que quand on a découvert la sagesse. Parce que le maître, c'est l'autorité dans l'ordre de l'enseignement. Qu'est-ce qui a autorité ? Pour enseigner, c'est celui qui a découvert le plus la vérité. Mais ce qui donne autorité pour enseigner, c'est la vérité. Donc, plus j'atteins la vérité de manière profonde, plus j'ai autorité pour enseigner, plus donc j'ai cette autorité de maître. Vous savez bien, même, ça c'est un nota bene, mais on voit ça même dans l'Évangile, c'est tellement extraordinaire. Hein. Ah, il n'enseigne pas comme les scribes. Il enseigne en maître qui a autorité. Et c'est très beau ça. Regard d'homme religieux sur Jésus qui enseigne comme un maître. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il enseigne une vérité. Il n'est pas, c'est pas un enseignement second, c'est un enseignement qui est source. Oui. On retrouve, hein, l'autorité, le maître, la sagesse, ça implique qu'on soit lié à la source de la vérité. Et c'est pour ça qu'Aristote dit dans la métaphysique qu'un des caractères du sage, c'est qu'il est plus capable d'enseigner qu'un autre. Parce qu'il enseigne en prenant les choses de manière la plus élevée possible. C'est très important à noter, ça. Donc, le terme sagesse dans les arts est par nous appliqué à ceux qui atteignent la plus exacte maîtrise dans l'art en question. Par exemple, à Phidias comme sage sculpteur et à Polyclète comme statuaire. En ce premier sens, donc, nous ne signifions par sagesse rien d'autre qu'excellence dans un art. Et Saint Paul reprendra cette image. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. L'art implique un aspect de sagesse au sens premier. Vous voyez, quand on aborde le terme, quel est le sens du mot Sophia, hein, c'est une excellence. Où est-ce qu'on le voit en premier lieu? D'abord, dans un art. Mais ce n'est pas la sagesse au sens parfait. Mais nous pensons aussi que certaines personnes sont sages. Alors, vous voyez, tricot traduit d'une manière générale, hein, ce n'est pas ça. Le terme grec, c'est très beau. Hein, donc, vous voyez, sage, c'est dans un art, c'est une certaine sagesse. Un aspect particulier. Bon. Mais il y a la sagesse, et Aristote dit « holos ». D'une manière plénière. « Holos », hein, c'est ce qui est le tout. Hein. Quand on parle d'une connaissance holiste, en français, c'est quelque chose qui traite de tout. Ah oui, c'est très intéressant. La sagesse implique un regard sur toute chose. Pourquoi ? Parce qu'on atteint la lumière ultime de toutes les réalités. Les sciences sont toujours partielles. Et vous voyez qu'aujourd'hui, elles se spécialisent de plus en plus. Il y a des gens qui sont spécialistes d'un tout petit quelque chose. Parce que c'est extrêmement affiné. Les sciences sont toujours multiples. La sagesse est une. Pourquoi ? Parce qu'elle regarde tout dans la lumière de la cause ultime. Oui, c'est intéressant, c'est pour ça qu'elle a quelque chose à voir avec la prudence, hein, qui regarde la fin de toute notre vie. Nous pensons aussi que certaines personnes sont sages d'une manière plénière, hein, totale, et non pas sage, dans un domaine particulier, alors littéralement, hein, vous voyez, c'est très, en grec, c'est très serré, hein, c'est holos d'une manière totale, et non pas sage, kataméros, selon une partie. Et on peut être sage dans un petit domaine, mais la sagesse au sens plénier, c'est la sagesse qui regarde toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire connaître tout dans l'ordre de l'extension? Est-ce que la contemplation, c'est tout connaître dans l'ordre de l'extension? Est-ce que c'est un savoir encyclopédique? Ce qui a été la recherche de certains modernes, regardez Diderot, hein, les encyclopédies du XVIIIe siècle, c'est très curieux. Il n'y a plus la contemplation, il y a une connaissance par extension. Leibniz aussi, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. Personne ne peut prétendre tout connaître dans l'ordre de l'extension, d'une manière parfaite. Ou alors, il est un touche-à-tout. Oui, la sagesse, ça implique un regard sur tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dans l'ordre de l'extension ou est-ce que c'est dans l'ordre de la compréhension? Et au sens où il atteint la vérité la plus ultime sur toute chose. Et donc, il y a un certain ordre. Il regarde tout dans la lumière de ce qui est ultime, donc premier. Nous pensons aussi que certaines personnes sont sages d'une manière totale et non pas sages selon une partie, ni sages en quelque autre chose, pour parler comme Homère dans Margites. Celui-là, les dieux ne l'avaient fait ni vigneron, ni laboureur, ni sage en quelque autre façon. Il est évident par conséquent que la sagesse sera la plus achevée des formes du savoir. Le sage doit donc non seulement connaître les conclusions découlant des principes, mais encore posséder la vérité sur les principes eux-mêmes. La sagesse sera ainsi à la fois connaissance des principes et science. Science munie en quelque sorte d'une tête et portant sur les réalités les plus hautes. Il est absurde en effet de penser que l'art politique ou la prudence soit la forme la plus élevée du savoir, s'il est vrai que l'homme n'est pas ce qu'il y a de plus excellent dans ce monde. Ah, ça c'est très très beau. Oui. Si l'homme était la réalité la plus parfaite de tout l'univers, c'est la prudence et l'art politique qui seraient sagesse. Platon aurait raison. Oui, il y a une contradiction chez Platon. Hein, parce que d'un côté, il dit qu'on est contemplatif, d'autre, il dit que le philosophe doit être politique, l'homme politique. Il veut faire un mixte. Pour Aristote, c'est deux domaines distincts. C'est l'art politique serait sagesse si l'homme était la réalité la plus parfaite. Mais s'il existe une réalité au-delà de l'homme, alors la sagesse est plus que la prudence et que l'art politique. Oui, c'est très beau, ça. Donc, voyez, on touche un point très, très important. C'est que la découverte de la sagesse et donc de la contemplation exige la découverte philosophique de l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. Et c'est par là qu'on entre dans la sagesse. La contemplation naît comme une exigence de notre intelligence quand nous découvrons l'existence de Dieu, de celui qu'on appelle Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sagesse si je reste uniquement dans ce domaine à des traditions. Je resterai à une prudence religieuse, mais non pas à une sagesse. Et je crois que ça, c'est la très grande différence, même si Platon ne l'a pas saisi de manière parfaite, c'est la très grande différence entre Socrate et Platon. Socrate, pour moi, n'est pas un contemplatif. Il reste un homme religieux, d'une prudence religieuse. Il pressent quelque chose. Platon, le grand progrès de Platon, ou la grande découverte de Platon, c'est d'avoir découvert qu'il peut y avoir une connaissance de Dieu qui soit une connaissance contemplative, donc une vérité. Oui, c'est pour ça que je disais hier, hein, la sagesse est liée à la découverte de la vérité de manière gratuite. Si vous ne restez que dans l'ordre pratique, vous resterez à une prudence religieuse. Oui, c'est la différence entre la contemplation et la vertu de religion. La vertu de religion, c'est l'attitude religieuse de l'adoration. La contemplation, ça relève d'une exigence de vérité. Voir celui que nous aimons par l'adoration. Il y a une exigence de contemplation qui relève de l'intelligence. Pour ça, je parlais d'un regard tout à l'heure. La vertu de religion ne va pas m'habituer à contempler. La vertu de religion me stabilise dans l'attitude de l'adoration. Mais l'adoration, elle exige que je cherche à connaître celui que j'aime par cette attitude religieuse. Adorer, c'est aimer Dieu, aimer le Créateur, reconnaître que nous dépendons de lui. Mais au-delà de cet amour, il y a l'éveil d'un désir de le connaître de le voir, de saisir une vérité à son sujet. C'est pour ça que pour Aristote, la sagesse est une certaine science. Elle est une connaissance de l'intelligence. Mais à l'intérieur d'un amour, hein, attention. Celui que j'aime, je cherche à le voir. Et c'est pour ça que, au sens tout à fait précis, la finalité de l'homme, ce n'est pas l'adoration, c'est la contemplation. Ce qui est fin, c'est la contemplation. L'adoration est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Parce que je peux adorer uniquement au niveau prudentiel. C'est ce que le pari de Pascal est de vrai. Quand Pascal dit, je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il vaut mieux parier qu'il existe, parce que comme ça, bon. Alors, au point de vue spéculatif, ça n'a pas de sens. Parce que je ne peux pas fonder une science sur un pari. Mais au point de vue pratique, c'est très intéressant, au point de vue prudentiel. Il est très imprudent de ne pas tenir compte de la possibilité de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, vivre comme s'il n'existait pas, c'est très imprudent. Parce que c'est ignorer quelque chose qui est peut-être ma fin. C'est tellement important, ça. Alors, vous voyez, c'est très éclairant pour beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens vivent dans une indifférence religieuse. L'indifférence religieuse, c'est un mal pour l'homme. Si Dieu existe, ah, c'est très important pour ma vie pratique, pour ma prudence. Mais la contemplation, c'est encore plus que cela. C'est à l'intérieur de cela l'éveil d'une recherche de vérité. Pour ça, je vous ai dit hier, hein, au point de vue critique, puis-je connaître une vérité sur quelqu'un dont je n'ai pas immédiatement l'expérience ? La contemplation, c'est connaître, voir, chercher à connaître celui dont j'ai découvert l'existence et que j'adore. Ah, vous voyez que c'est pour ça que c'est très fort que Aristote souligne ça. Il est absurde de penser que l'art politique ou la prudence soit la forme la plus élevée du savoir s'il est vrai que l'homme n'est pas ce qu'il y a de plus excellent dans le monde. Il y a une question qui touche la vérité. Si Dieu existe, alors la sagesse a un sens. Donc vous voyez, je vais donc entrer dans la sagesse en me posant la question de l'existence de l'être premier qu'on appelle Dieu. C'est pourquoi, en philosophie, cette question est tellement importante. Et c'est pourquoi dire que l'intelligence est incapable de découvrir l'existence de Dieu, c'est une chose très grave pour la vie de notre intelligence. Alors c'est ce que dit Kant. Vous voyez ce que je vous ai cité hier, hein, quand on dit dans certains lieux, hein, il faut supprimer la causalité de la théologie. C'est très grave, parce que c'est empêcher mon intelligence de s'éveiller à la sagesse. Pourquoi ? Je n'ai pas l'expérience de Dieu. Je ne peux donc le découvrir que par la causalité. Évidemment, il dit ça pourquoi ? Parce qu'il met sous le mot « cause » le sens que lui donne Kant, hein, qui est un lien de dépendance d'antérieur et de postérieur, qui est en fait une loi. Hein. Kant confond la loi et la cause. Alors il dit, par conséquent, on ne peut pas parler de cause à propos de Dieu. Dieu ne dépend de personne. Il a oublié la cause au niveau de l'être et la cause finale. Vous voyez, c'est pour ça que là, hein, je ne fais que toucher ça, parce que je ne peux pas le développer. Hein. C'est l'importance d'une métaphysique de l'être pour la vie de l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui est facultatif. C'est vital pour l'intelligence qui cherche la sagesse. La prudence ne suffit pas à la découverte de la contemplation. Ça me dispose, oui. Je vois que c'est important. Je dois essayer de chercher la vérité. Je dois essayer de travailler, coûte que coûte. Je vois que c'est important. Oui, mais la sagesse, c'est cet éveil de l'intelligence à la recherche de la vérité, ce qu'elle ne peut faire que si elle a découvert ce que c'est, que ce qui est. Puisque c'est à partir des réalités dont j'ai l'expérience que je vais pouvoir m'élever jusqu'à la découverte de l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu. C'est pour ça, vous voyez, dans la contemplation philosophique, dans la sagesse, il y aura toujours la présence de la causalité. Je contemple l'être premier en philosophe à partir des réalités dont j'ai l'expérience, à partir de ses effets. C'est donc une contemplation très pauvre. Hein. Je ne vois pas Dieu face à face. Ça sera le propre de la vision béatifique. Mais le philosophe peut, à partir des réalités dont il a l'expérience, connaître quelque chose de l'être premier, créateur de ces réalités. Cause première et ultime. Et donc la sagesse, c'est pour ça que Aristote souligne hein, que la sagesse, c'est le sage, c'est celui qui connaît d'une manière ultime, hein, plénière, parce qu'il connaît la cause première de toutes les réalités. Donc être sage, c'est quoi ? C'est tout regarder dans la lumière de l'existence de Dieu créateur. Et c'est saisir une lumière de sagesse. C'est pas seulement une lumière prudentielle. Et c'est d'abord donc chercher à connaître cette cause première. Alors vous voyez, Aristote souligne, hein, dans cette lumière, que si la sagesse, ça implique, hein, que l'homme soit découvert, qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui est plus ultime que l'homme, il va donc avoir ici la connaissance d'une vérité absolue. Alors, vous voyez, il va comparer la vérité pratique à la vérité théorétique. Je vous lis ce passage. Donc, je vous relis, hein, puis je continue. Il est absurde, en effet, de penser que l'art politique ou la prudence soit la forme la plus élevée du savoir, s'il est vrai que l'homme n'est pas ce qu'il y a de plus excellent dans le monde. Si dès lors, sain, hein, ce qui relève de la santé, sain et bon, est une chose différente pour des hommes et pour des poissons, tandis que blanc et rectiligne est toujours le même, on reconnaîtra chez tous les hommes que ce qui est sage est le même, mais que ce qui est prudent est différent. Ah oui, c'est très très beau ça. La prudence est différente pour chacun, parce que cela dépend de l'ordre du contingent. Et nous n'avons pas tous les mêmes moyens, nous n'avons pas tous le même mode de vie, nous n'avons pas tous le même âge, nous n'avons pas tous la même santé. Donc la prudence n'est pas la même pour chacun. Et la prudence n'est pas la même pour un enfant de 5 ans et pour quelqu'un qui a 80 ans. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que les moyens qui sont à sa portée sont différents. On est dans l'ordre du contingent, même si la fin est la même. Tandis que la vérité, elle est la même pour tout homme. Ce qui est, c'est ce qui est pour un enfant de 5 ans comme pour un vieillard de 80 ans. Oui, alors c'est pour ça que c'est important. L'importance du jugement d'existence. Oui. La sagesse, ça implique qu'on découvre une vérité absolue par rapport à une réalité existante qui, parce qu'elle est première, est source de toute vérité. Vous voyez comme c'est éclairant. Hein ? Si l'on fait de Dieu un être qui est dans le devenir, il n'y a plus de contemplation possible. C'est pour ça qu'il faut bien saisir. Il n'y a de sagesse pour l'homme que s'il a découvert la métaphysique de l'être. C'est-à-dire l'existence de la réalité, l'acte, comme mesure du vrai, au-delà de la contingence du devenir. Et là, on retrouve quelque chose de ce qui était déjà découvert par Parménide. Il n'y a comme seule voie de la sagesse que cette affirmation « il est ». Mais ce qui est changeant n'est pas sagesse, puisque ça change. C'est contingent, ça relève de la prudence. Et la prudence amène une souplesse. La sagesse, je ne dis pas amène une raideur, hein, amène une détermination vers la vérité. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est une des très grandes discussions, vous savez bien. Et c'est toujours un peu un dilemme devant lequel on se trouve. Parce que la sagesse, je ne dis pas, amène l'intransigeance de la vérité, mais quelque chose comme ça. Hein. La sagesse, ça implique un sens de la vérité. Je dirais un combat pour la vérité. Vous voyez, on retrouvera ça au niveau de la foi. Hein, la vérité, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'au niveau prudentiel, la vérité est relative. Parce qu'elle change selon les circonstances. La fin reste la même, mais les moyens changent. Et c'est au fond toujours une discussion entre prudence et sagesse. La vérité, c'est ça. Est-ce que c'est prudent de la dire dans ce lieu ? C'est très difficile. C'est pour ça. Hein. Est-ce que la vérité doit toujours être proclamée ? Oui, hein, saint Paul dit qu'il faut proclamer la vérité à temps et à contre-temps. Mais et la prudence ? Où est-ce qu'elle joue ? Est-ce que l'autre est capable de recevoir cette vérité ? C'est très intéressant. Les rapports entre l'ordre de la sagesse et l'ordre pratique ne sont pas si commodes. Voyez. Hein, si on était platonicien, la sagesse, c'est la sagesse. Donc, elle s'impose d'une manière universelle. Oui, c'est vrai. Mais il y a l'aspect de la prudence. À qui s'adresse cela ? Vous voyez, toujours cette discussion. C'est pour ça que je trouve très très beau ce qu'il dit là. Hein. Il y a le saint et le bon, c'est pas la même chose pour le poisson et pour l'homme. Vous voyez, la santé du poisson n'est pas celle de l'homme. Parce que si vous prenez pour un poisson rouge, ça ne va pas aller très bien. Vous mettre dans votre bocal, puis toujours on vient vous donner un peu. Vous allez vite dépérir. Hein. Vous allez avec un tuba, vous nagez en rond dans votre aquarium. Après, vous nourrissez comment ? Ce n'est pas adapté pour vous. Voyez. Hein. La santé du poisson. Voyez. Hein. Il y a une différence. Pourquoi il y a une différence entre le vétérinaire et le médecin ? Hein. C'est évident. Parce que le corps de l'homme n'est pas le corps animal. Ce n'est pas la même chose. Il y en a qui confondent, mais c'est un peu embêtant. Mais on parle d'un remède de cheval. Alors, bon. Hein. Alors, tu as dit que. Il y a une objectivité dans la vérité qui est au-delà. Oui, donc, oui, l'importance du jugement d'existence. Ce qui est, en tant qu'il est, actu, mesure mon intelligence. C'est donc par là que je vais avoir un chemin pour remonter jusqu'à l'existence d'une réalité première qui est par conséquent la vérité première. je découvre l'existence d'un être premier, source de toutes les autres réalités existantes. Et par conséquent, vérité première. Et c'est très beau, hein ? Le problème de la sagesse touche tout de suite le problème de la vérité, d'une vérité au niveau de ce qui est. C'est pour ça, vous voyez, je souligne cela. Je crois que c'est très difficile de parler de contemplation si on n'a pas découvert l'appétit naturel de vérité de notre intelligence au-delà du domaine pratique. Quelqu'un qui n'est que dans une connaissance pratique et qui croit que l'intelligence se ramène uniquement à cela ne s'éveille pas à la contemplation. Il reste dans le domaine prudentiel ou artistique. Et c'est pour ça que c'est tellement important, hein, éveiller dans l'intelligence de l'homme le sens de la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va le conduire ultimement à la découverte d'une vérité première, source de toute lumière. Si je reste que dans le domaine contingent, je ne peux pas m'éveiller à la sagesse. Et c'est pour ça que les idéologies, hein, il y en a qui disent cela. Certaines idéologies disent qu'il n'y a pas de connaissance spéculative, qu'il n'y a qu'une connaissance pratique, notamment le marxisme. C'est bien ce que dit Marx. Il dit « on ne connaît une réalité que quand on la transforme ». Donc, la seule vérité pour Marx, c'est le travail. Bien non, je peux connaître le bois qui existe en dehors du fait que je le travaille. Il y a une connaissance de ce qui est au-delà d'une connaissance pratique qui transforme cette réalité. Si je dis qu'il n'y a que la prudence et que les choses immédiates qu'il faut faire, l'efficacité immédiate de ma vie, il y a quelque chose qui ne suffit pas. Oui, c'est pour ça qu'Aristote souligne que la sagesse n'a pu naître que quand on est suffisamment libre de certaines contingences immédiates. Et ça, c'est l'ordre de la prudence. C'est bien ce qu'il dit. Hein. Les mathématiques, hein, dont il dit qu'elles ont quelque chose à voir avec la sagesse, mais les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Ouais, c'est très curieux. Il dit qu'on ne peut s'éveiller à une certaine connaissance contemplative que quand on est libéré de certaines nécessités immédiates. Ce qui est vrai. Alors c'est plus ou moins, vous voyez, ça veut dire pour Aristote, vous voyez, que le sage comme sage n'est pas immédiatement celui qui doit commander au niveau pratique, non. Il peut par ailleurs avoir la prudence et être le plus prudent, ça c'est autre chose, mais ce sont deux qualités différentes, vous voyez. Ce n'est pas en tant que sage qu'il est nécessairement le plus prudent pour les choses immédiates. Vous voyez, c'est très éclairant ça. Il est prudent en tant que par son corps, il est encore membre d'une communauté politique. Et donc, il doit tenir compte des nécessités pratiques. Et, mais il y a une distinction entre prudence et sagesse. Ce n'est pas le même type de connaissance. Et le pratique, ce n'est pas l'application d'une théorie à une réalité. C'est très important, sinon on tombe dans Platon. Pour Platon, la contemplation est immédiatement pratique. Et gouverner, c'est appliquer une vision contemplative, ce qui est faux. Parce que gouverner, c'est être face à des réalités changeantes qui ne sont jamais les mêmes tous les jours. La prudence est une autre connaissance que la sagesse. Et ce n'est pas parce que j'ai la sagesse que je suis forcément le plus prudent dans l'ordre du gouvernement. Et c'est très très éclairant, ça, oui. Ça fait comprendre, voyez comment pour Aristote, le pratique n'est pas une application d'une connaissance théorique. Ce qui est une très grosse erreur de la scolastique, hein. Qui a fait croire que Aristote c'était d'abord une théorie qu'on appliquait à la réalité. En fait, ça c'est du platonisme. Pour Aristote, il y a une découverte de la prudence dans l'ordre pratique. Et il y a une découverte de la sagesse grâce à un éveil de la chair de la vérité qui est d'un autre ordre. Je ne peux pas me contenter de la nécessité pratique. Il y a un éveil de la vérité pour la vérité. C'est pour ça qu'il dit le signe de ça, la vision. Je ne vois pas uniquement pour l'ordre de l'utile. J'aime voir pour voir. Il y a un appétit de vérité pour l'amour de la vérité. Donc vous voyez, si je prends ça à contrario, hein, si j'ai plus le sens de l'éveil de la recherche de la vérité, a fortiori, je n'aurai pas le sens de la sagesse contemplative. Le sage est un homme qui cherche la vérité. Et parce qu'il cherche la vérité, il cherche la vérité ultime, première, celle qui éclaire toute vérité. On y reviendra cet après-midi sur les rapports entre science et sagesse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.